Top, c'est parti.
Comment ça marche le journalisme?
Sur Twitter, Instagram.
On est dans un moment de grande confusion.
C'est votre dernier mot.
Alors, il est 9h40, vous êtes sur France Inter et je vous souhaite la bienvenue dans l'instant.
Quand on regarde une série, on sait que ça va se terminer.
Vous me spoilez? Le
spoil.
On ne se ferme pas les yeux aussi facilement qu'on se bouche les oreilles.
Le petit livre de Yvan Jablonka en camping-car a pour ambition de retracer les étés itinérants d'une enfance heureuse. Une famille de citadins sillonnant sous le soleil la terre des années 70, loin du tourisme de masse. Le petit film que France 5 en a tiré, puisant dans la réclame et autres matériaux extraits des médias de masse en pleine expansion. Je vous en parle ce matin. Le livre et le film débouchent sur cette même interrogation. À qui appartient notre enfance? À nous, rien qu'à nous, petit individu en devenir? À notre famille ou à une société tout entière, à ses mutations, à ses déterminations? Dès lors, où doit-on ranger nos souvenirs? Dans des boîtes à chaussures ou bien dans ce que les historiens nomment, c'est très intimidant, les archives?
L'instant M. Sonia de Villers, sur France Inter.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs et chers amis, l'important lorsqu'arrivent les vacances, c'est de ne pas perdre une minute. Roulant à la vitesse réglementaire sur cette petite route et grand chemin pour un autre circuit, l'Italie. L'Italie qui s'étire sur 1200 km du nord au sud. Si les routes s'améliorent de jour en jour, elles sont souvent étroites et sinueuses. Le pays étant d'un pittoresque infiniment varié, klaxonné au tournant. Les conducteurs de l'île, excellents manœuvriers, vont très vite et ne klaxonnent pas.
Bonjour Yvan Jablonka.
Bonjour.
Soyez le bienvenu dans cette émission. L'enfance, ses lieux, ses cadres, ses institutions, les transmissions, les points de rupture, l'enfance comme marqueur historique, c'est quelque chose de récurrent dans votre travail d'historien. Là, vous venez porter quelque chose qui relève de votre enfance et vous nous raconterez comment votre enfance devient le témoin d'une sorte d'enfance collective. En camping-car, c'est donc ce petit livre qui aujourd'hui existe en livre de poche, au point. Et ça devient un film réalisé par Andrés Jarec qui est diffusé dimanche soir sur France 5. J'aimerais que vous nous racontiez cette tension, ce paradoxe, cette espèce de bascule permanente dans le film, c'est-à-dire l'idée que vous empruntez le camping-car familial, qui est un, on va dire, le symbole de vacances populaires et peu coûteuses, et en même temps, vous n'êtes pas membre de ce qu'on a appelé le tourisme de masse. Vous êtes dans quelque chose de très populaire et en même temps dans quelque chose d'extraordinaire et d'exceptionnel.
Oui, c'est vrai, le camping-car, ce combi Volkswagen, oui. Ou le van, comme on dit aujourd'hui, il y avait un côté populaire et puis aussi frugal,
oui.
Peut-être un peu écolo avant la lettre, et puis terrien, terrestre, c'est-à-dire vraiment les vacances au ras du sol. Et puis en même temps, c'était pas non plus si populaire que cela, parce que d'abord, il fallait l'acheter, ce camping-car, et ça coûtait de l'argent. Et puis ensuite, il y avait une espèce d'ambition culturelle, parce que dès qu'on allait dans des pays à vocation un petit peu... gréco-latine, enfin dans le bassin méditerranéen, qui toujours nous rappelait sa brillante histoire. Et puis quand on passait à proximité d'un site antique ou d'une église baroque, il fallait les visiter et nos parents nous y traînaient.
Et puis il y a l'idée qu'on refuse le mainstream. C'est vous qui utilisez ce mot qui naît dans les années 70 avec la culture de masse, justement.
Oui, parce que dans les années 70, c'est aussi le développement des vacances de masse, les différents clubs, d'ailleurs dont se moque le film Les Bronzés, hein, c'est à peu près cette époque-là. Et donc, le camping-car, c'était la volonté de faire des vacances autrement, plus libres, plus indépendantes, plus autonomes. Et puis, justement, avec ce contact local, cette espèce de
avec sa grammaire, le camping officiel, le camping sauvage.
Le camping officiel nous permettait, effectivement, de prendre une douche, de faire une petite recharge en eau. Et le camping sauvage, au contraire, c'était l'autarcie, on pouvait comme ça dormir au bord d'une jetée, sous une pinède, au pied d'un temple antique. Et ça fait des souvenirs formidables. Mais au-delà de ces souvenirs d'enfance, j'ai essayé de montrer comment mes vacances sont en fait nos vacances, dans la mesure culture où, comme vous le disiez, il y a eu une grammaire commune qui s'est construite dans la deuxième moitié du XXe siècle et dont les mots-clés sont la mère, la famille, le repos, le soleil. Et ça, c'est des choses qu'on retrouve un petit peu et qui se sont construites historiquement, sociologiquement, pour donner nos vacances.
C'est beaucoup plus exigu, on a beaucoup moins de ménage à faire. Puis pour les repas, on se contente d'un petit beefsteak, d'un légume, enfin c'est plus facile. Nous n'avons que par exemple un mois de vacances et nous allons très loin avec beaucoup plus de facilité, de liberté. Nous faisons 8 à 10 000 km pendant ce mois-là. Eh bien, on ne pourrait pas le faire avec une petite voiture.
Vous le dites d'ailleurs, Yvan Jablonka, il y a une répartition genrée des tâches dans le camping-car. Et là, autre paradoxe, hein, de la même manière qu'il y a quelque chose d'authentiquement populaire dans le camping-car et en même temps d'exceptionnel dans ce camping-car, autre paradoxe, les règles sont suspendues. Ça ne se passe pas comme à la maison.
Je crois que le plus important, c'était qu'il y avait une atmosphère post-68arde, avec l'idée que les enfants devaient être à la fois heureux, libres, autonomes, sous la surveillance lointaine des adultes qui étaient quand même là et qui vérifiaient qu'on faisait pas non plus n'importe quoi. Donc oui, les règles étaient suspendues et c'est ça qui me permet de dire...
Et en même temps, papa pêche, papa conduit, papa répare, maman cuisine.
Vous avez raison, donc c'est ça qui me permet de dire que c'est le moment où j'ai été sans doute le plus libre et le plus heureux de mon enfance. Mais oui, il y avait des règles de genre qui se retrouvaient assez rapidement. C'est vrai que c'était les mamans, j'ai des souvenirs très nets, c'était les mamans qui faisaient à manger, qui s'occupaient globalement du bien-être des enfants. Et puis, je me souviens aussi que les papas conduisaient sur les grands trajets, ou levaient le toit dans un combi Volkswagen. Il faut lever le toit quand on pourra accéder aux couchettes du haut. Et ça, c'était d'un côté la tendresse et le soin aux enfants, de l'autre la force physique et les responsabilité motorisée, on va dire.
Le ministère du temps libre représente une grande ambition pour ce gouvernement de la gauche et il exprime la volonté souvent annoncée par le président de la République et par le Premier ministre de donner la possibilité aux hommes et aux femmes de notre pays de mieux maîtriser leur temps et non pas de subir leur temps. Par conséquent, le ministère du temps libre devrait se fixer pour grand objectif non pas de régenter les loisirs des gens, mais de les aider à vivre des loisirs qu'ils créent eux-mêmes et d'être ainsi plus heureux. C'est un petit peu un ministère du mieux vivre, du temps de vivre.
Je suis née en 1975, en 1981, j'étais petite, je ne m'en souviens pas. Quand je vous ai lu, Yvan Jablonka, je n'y ai pas cru. Un ministre du temps libre, Mitterrand avait un ministre du temps libre, il s'appelait André Henry.
Ouais, il y a quelque chose effectivement qu'on a du mal à réaliser, mais pourtant c'est vrai, et d'ailleurs ça fait le lien avec le Front Populaire et avec l'institution des congés payés. Et ça, je crois que ça, c'est un petit peu la structure de ce que j'appelle nos vacances, c'est que oui, le temps était réapproprié et le temps était arraché au quotidien, à la ville, à l'usine, au boulot, et donc le temps était comme ça, redonner aux individus qui pouvaient le goûter comme
vous
ils
dites,
le souhaitaient.
Vous dites, le temps n'était pas employé, il était vécu.
Ça, c'est bon, c'est un souvenir très net que j'ai par opposition à l'année scolaire. Effectivement, il y avait même l'ennui, même la lenteur de route, même les trajets avaient quelque chose de fantastique parce que ils nous traversaient et qu'on les vivait. Et ça, c'est peut-être propre à l'enfance, mais c'est aussi surtout propre au camping-car qui permet de vivre son voyage et de voir les kilomètres qui se déroulent comme ça devant soi. On tape la route et ça fait aussi partie du plaisir du voyage.
Et d'ailleurs, dans ce rapport au temps, vous dites que l'école de Jules Ferry a fait plus qu'éduquer le peuple. Elle a, d'une certaine manière, institué un cadre temporel pour toute une nation.
D'ailleurs, effectivement, ce cadre temporel, on le sent bien en français.
Les grandes vacances.
Les grandes vacances et l'année scolaire. Tout le monde comprend parfaitement cette scansion. Et quand, effectivement, le mois de juillet arrivait, on savait que c'était un autre rythme qui s'engageait. Et le camping-car venait comme ça incarner cette douceur de vivre, mais aussi cette intensité de vie qui se voyait dans des activités physiques ou culturelles, mais aussi dans cette liberté qu'on venait comme ça boire à plein poumon.
Alors d'où elles viennent les images de ce film ? Il y a des archives personnelles ?
Il y a quelques archives personnelles, mais Andrés Jarak, le réalisateur, a fait un travail formidable qui a consisté à recueillir énormément d'archives familiales, non pas les miennes, mais celles des autres. Il a fait un certain nombre d'appels sur les réseaux sociaux, il a fait des recherches. Et puis, grâce à cela, le film entier est composé d'archives familiales qui montrent cette grammaire, qui montrent qu'on avait des vacances qui peut-être pas se ressemblaient, mais avaient beaucoup, beaucoup en commun. L'enfance, être ensemble.
Là, je pose une question à l'historien que vous êtes. À partir de quand un souvenir d'enfance devient ce que vous appelez une archive ?
Ben moi, je considère que l'archive, c'est n'importe quoi dès lors qu'on lui pose une question. Dès lors qu'on a une question d'ordre sociologique ou historique à poser à un objet, il devient une archive. Et en l'occurrence, moi, j'ai travaillé sur un certain nombre de documents, oui. Mes journaux intimes, mes carnets de bord que je rédigeais tout au long des années 80 pendant ces voyages en camping-car, mais aussi des photos argentiques. Je ne sais pas si ça dira grand-chose à la jeune génération. Enfin, pourtant, on en sent le grain et puis le caractère comme ça très, très matériel. Des cartes postales que j'ai pu envoyer et qu'on m'a rendues. Et puis aussi beaucoup de témoignages de gens, d'amis, de mes proches. Et dès lors que cet ensemble d'objets ou de personnes, dès lors qu'on pose une question, par exemple, qu'est-ce que c'était que ces vacances, comment elles étaient construites, pourquoi on était libre, eh bien, les gens, les objets, les choses vous répondent et ça devient des documents au sens historien.
À 15 ans, j'avais vu Palerme, Tanger, Zagreb, Lisbonne. J'avais passé le canal de Corinthe par voie de terre et par voie de mer. J'avais navigué en gondole, pique-niqué sur les marches d'églises baroques, fait ma prière sur l'Acropole, soutenu la tour de Pise, couru sur le sable d'Olympe, caressé les dunes du Sahara, joué avec un caméléon, dégusté des souvlaki et dormi dans une oasis, dans des babouches, admiré un coucher de soleil, gravi l'Etna et le plongé dans les rouleaux des Sawira, suivi des étoiles filantes dans le ciel d'Anatolie.
C'est un acteur, Eric Caravaca, qui reprend ce récit qui est le vôtre. C'est sa voix à lui dans le film. Vous dites le voyage est une leçon de modestie, Yvan Jablonka. Votre maman était professeure de français, latin, grec, donc on comprend très bien. Comme vous dites, on se baigne en esthète de la mer. On comprend très bien que ce combi n'est pas l'apanage de vacances populaires. On comprend très bien de quel milieu vous venez. Ces balades dans les ruines, ces éclats d'histoire qui devenaient mes souvenirs, racontez-vous. Mais vous dites autre chose. Vous dites aussi, quand j'étais petit, la ligne nord-sud traversait l'Europe.
On se baignait dans la mer, mais on se baignait aussi dans le temps. On remontait le temps par une baignade, parce que c'était la même mer qu'avaient connue des petits Grecs ou des petits Romains 2000 ans plus tôt, et ils avaient mon âge. Ça, c'était quelque chose de bouleversant. Et puis oui, il y avait une frontière politique et économique que j'ai mis du temps à percevoir, parce que les pays où on allait, l'Italie du Sud, le Portugal, l'Espagne ou la Grèce, c'était des pays qui étaient encore pauvres. Alors on a perdu un petit peu ce sentiment parce que tout ça maintenant c'est l'Union européenne, mais ces pays, pour certains, venaient d'entrer dans l'Union européenne, par exemple l'Espagne ou le Portugal. Et puis ces pays aussi, c'est quelque chose de fondamental, sortaient de la dictature. Le Portugal,
la Grèce sortait des colonels.
La Grèce, les colonels, le Portugal de Salazar, l'Espagne de Franco. Et ça, c'est quelque chose que j'ai mis du temps à percevoir parce que il y avait vraiment deux Europes. Moi, je venais de l'Europe du Nord, riche, occidentale, comme on dit. Et puis, c'était, on allait un petit peu comme des touristes privilégiés, hanter les plages d'une Europe qui était en voie d'intégration à ce qu'on appelait à l'époque la CEE, la Communauté Économique Européenne. Et puis la dernière chose que aussi je ressens avec beaucoup de force, c'est que j'ai connu des monnaies locales, les lires, le drachme, les pesetas. Et aujourd'hui, c'est quelque chose bien sûr qui s'est perdu, enfin au sens propre, ces monnaies n'existent plus, c'est l'euro. Et il y a quelque chose aussi, voilà, qui est très propre aux années 80 sur le plan politique, économique et même monétaire, qui fait que voilà, je fais partie d'un siècle révolu. Nous faisons partie de ce siècle qui n'existe plus, pour le meilleur et pour le pire. Mais on sent bien que...
On sent bien que ce film raconte le XXe siècle et vous arrivez évidemment à quelque chose de très fort, de très puissant. C'est que vous, le petit-fils de déporté, avez ces merveilleux souvenirs dans une voiture allemande.
Was glauben Sie, wie stolz der Xaver ist? Endlich hat ihn, sein VW-Kombi. Übrigens, für Sie steht auch einer bereit.
Und wo?
Na, bei mir. Ihrem Volkswagen-Händler.
Alors, j'ai tout oublié de mes leçons d'allemand. Mais le Kombi, j'ai... Il faut raconter l'histoire de la Volkswagen.
Bah oui, la
de
Volkswagen,
cette voiture du peuple.
Cette voiture du peuple, effectivement, elle a pris son essor sous le nazisme, ce même régime qui a déporté et tué mes grands-parents paternels, et puis menacé mes deux parents, d'ailleurs. Et c'est dans ce même Kombi Volkswagen qu'on roulait et qu'on passait nos vacances, et on y était heureux. Alors il y a là peut-être une revanche sur l'histoire, il y a là sans doute aussi une espèce de renversement qui me touche beaucoup, parce que cette marque Volkswagen, au cours du XXe siècle, peut incarner l'horreur, un régime qui tue, et aussi le miracle économique et démocratique ouest-allemand, dont nous avons profité, comme des millions d'autres Européens, et c'est ça qui faisait
Vous
nos vacances.
Vous citez Vladimir Yankelevitch, les Allemands ont tué 6 millions de Juifs, mais ils dorment bien. Ils mangent bien, ils vivent bien, le Mark se porte bien. Le confort moral des Allemands dans les années 50-60, cela aurait pu être insupportable à votre père notamment.
Exactement, comme ça a été insupportable à Yankelevitch, mais on bénéficiait, on profitait aussi de cet aspect de bonheur sur terre, d'épicurisme au sens fort. Et cette marque, comme d'autres, incarne cette espèce de progrès qui s'est résolu, voilà, dans ces vacances, dans une intégration familiale plutôt que dans une déportation vers des camps de la mort.
Oui. D'ailleurs, vous faites ce parallèle osé, glaçant et pourtant qui fonctionne entre ces trains qui n'avaient qu'une seule destination sans retour et cette voiture allemande qui servira à l'errance, à la sérendipité, au plaisir, au voyage, à la découverte, au bonheur.
Oui, absolument. Le Kombi Volkswagen nous a en quelque sorte sauvés de ces souvenirs obsédants du nazisme et de la déportation. Le Kombi vers la liberté, la mer, le soleil, c'était l'exact opposé du wagon plombé qui vous déporte vers la mort. Et c'est sans doute pourquoi le premier nous a sauvés du second.
Vous dites aussi que c'est l'enfance communiste de votre père qui probablement l'a aidé à aimer et respecter le peuple allemand tout en condamnant son passé fasciste, son passé nazi.
Oui, c'est ce que disaient les communistes à l'époque. Enfin, dans les années 40-50, on combat l'hitlérisme mais on respecte le peuple allemand. Et c'est vrai que moi, j'ai fait allemand première langue au collège. Et puis, par la suite, voilà, on a fait des vacances enchanteresses dans ce Kombi Volkswagen qui incarne un objet culte et plus largement toute une époque.
Et vous concluez en disant « Moi, historien, je n'ai toujours pas compris la différence entre notre histoire et l'histoire avec un H majuscule. » Pourquoi dites-vous cela, Yvan Jablonka? C'est que vos professeurs d'histoire, eux, insistaient sur le fait qu'il y a une différence?
C'est pas simplement mes professeurs d'histoire, c'est toute une société, tout un langage tend à faire la différence entre l'histoire avec un grand H, la geste des grands hommes, et d'autre part, nos petites histoires qui sont censées être intimes, psychologiques et n'intéresser que nous. Et moi, je pense que c'est faux. Je pense que l'histoire, avec un H minuscule, est composée d'une myriade d'individus, de familles, de collectifs, d'institutions que j'essaye de penser depuis l'individu jusqu'à l'international, en passant par tant d'institutions, de collectifs et d'objets cultes, typiquement un camping-car familial, mais qui était aussi le symbole de toute une époque et même d'une fin de siècle, et même d'un basculement d'un millénaire à un autre.
Et le fait de pouvoir mettre en image ce travail que vous avez effectué à partir de vos souvenirs et de nos souvenirs, ça a apporté quelque chose de supplémentaire en réalité, parce que c'est une grande période d'expansion des médias de masse et donc d'expansion de l'image et de la production de l'image.
Oui, le travail qu'on a fait avec Andrés Jarak m'a fait beaucoup de bien parce que il montre aussi que toutes ces images ont une matérialité et renvoient à des expériences que des milliers, des millions de gens ont vécues. C'est pour ça qu'il y a quelque chose de bouleversant dans toutes ces archives familiales que Andrés Jarak et moi avons réunies. On a l'impression que c'est toute une société qui a vécu des choses très proches au même instant pour son bonheur.
En camping-car, Yvan Jablonka, vous pouvez le lire en poche, collection Le Point, et puis vous pouvez aussi le regarder dimanche soir sur France 5. Mille merci pour ce témoignage et pour ce récit. Bonjour Ali Rebéi.
Bonjour Sonia De Villers, vous allez bien?
Très bien,
bon,
et vous?
Eh bien, ce matin, ce que Napoléon a apporté à notre vie quotidienne. N'hésitez pas à poser toutes vos questions à nos experts.
Je vous envoie Yvan Jablonka, si vous
avec
voulez.
Avec plaisir, il peut venir.
Il
y a une place dans le studio. au 01 45 24 7000.